France Inter. L'écrivain, membre de l'Académie royale espagnole et traducteur Javier Cercas est titulaire d'un doctorat de philologie, d'une spectaculaire érudition littéraire et d'une drôlerie jubilatoire. Son premier roman, Le Mobile, contait l'histoire d'un homme prêt à tout pour écrire un grand livre et a été adapté au cinéma par Manuel Martín Cuenca. Le livre qui le révèle au grand public, Les soldats de Salamine, salué entre autres par les écrivains Mario Vargas Llosa, Doris Lessing ou Suzanne Sontag, parle de l'exécution manquée de Rafael Sánchez Mazas, écrivain et idéologue de la Falange espagnole, organisation d'extrême droite, pour s'émanciper en se transmuant en récit hybride, l'une des marques de fabrique de Javier Cercas. Suivent à la vitesse de la lumière sur la guerre du Vietnam, Anatomie d'un instant sur la transition démocratique post-franquiste, L'imposteur sur un faux survivant des camps nazis ou Le monarque des ombres sur un soldat franquiste mort à 19 ans lors de la bataille de l'Ebre qui n'est autre que l'oncle de sa mère. L'ironie et l'humour sont indispensables au romancier, même lorsqu'il aborde des événements tragiques. Homme de questions ne cherchant pas forcément à y répondre, l'auteur du Point aveugle, recueil de conférences données à Oxford sur la nature du roman et le rôle du romancier, vient de publier la version française de son dernier livre chez Actes Sud. Intitulé Le fou de Dieu au bout du monde et traduit de l'espagnol par Alexander Grujicic et Karine Louédon, l'ouvrage mêle biographie, autobiographie, réflexions diverses et est considéré par l'auteur comme son livre le plus fou. Il sera beaucoup question de folie ce soir d'ailleurs, alors je vous dois quelques explications. Le fou de Dieu, c'est le surnom de Saint François d'Assise qui a inspiré au pape François le choix de son prénom papal. Il y a aussi un fou sans Dieu, Javier Cercas, athée anticlérical et iconoclaste auquel le Vatican a proposé en 2023 d'écrire un livre sur le pape François et de l'accompagner dans un voyage officiel en Mongolie. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises ce soir. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Javier Cercas.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Le dessert que j'ai mangé aujourd'hui. Oui, c'était très bon.
Qu'est-ce
chocolat
que c'était?
Ah, très bon. J'aime beaucoup
le chocolat.
Oui, et le dessert en général. Je suis un enthousiaste permanent.
Ah oui, mais vous courez tous les jours 50 minutes.
55 aujourd'hui.
C'est vrai?
Oui, 55 aujourd'hui, oui.
Parce que si vous ne courez pas, vous avez des envies de cannibalisme.
Oui, absolument. Ou d'envahir l'Ukraine ou quelque chose comme ça. Je deviens dangereux.
Ah mais c'est peut-être pour ça alors que ça explique la situation géopolitique. Peut-être que tout le monde devrait faire du jogging.
C'est une addiction. Je suis un homme d'addiction, et ça c'est mon addiction aujourd'hui. J'ai eu toutes les addictions du monde, l'écriture pour commencer, la lecture, etc. Et aujourd'hui, c'est courir au matin, 55-50 minutes. C'est très important.
La drogue et l'alcool aussi que vous avez quitté, malavida, comme on dit en espagnol.
Oui, la malavida, c'est vrai. Aussi, l'alcool, oui. Je ne bois pas aujourd'hui.
Il y a une chose que vous n'avez pas quittée, c'est l'angoisse.
C'est vrai. Oui, je l'ai découvert quand j'ai perdu la foi.
Non? Très tôt, à l'adolescence.
Exactement, 14 ans. Je le raconte dans ce livre, mais c'est la vérité. Je ne connaissais pas. Mon enfance a été très heureuse. Et je crois que ce n'est pas si étrange. Je ne suis pas un homme très différent. Je suis comme tout le monde. Je suis un peu comme Salvador Dali disait, je suis pas normal, je suis super normal. Alors je suis un peu la même chose. Et je crois que c'est normal, ça. C'est logique quand tu commence à avoir une vie morale, etc. L'angoisse arrive à toi. Dans mon cas, c'était comme ça, en même temps que la littérature. La littérature était mon instrument de combat contre l'angoisse, je crois.
Et ça fonctionne parce que...
Oui.
Ah oui?
Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Quand j'arrête d'écrire, alors l'angoisse revient, mais c'est un instrument de ça, de lutter contre l'angoisse, comme courir. Je pense, oui, c'est un peu...
Parce que vous dites que la littérature n'apporte aucun réconfort, mais seulement des questions et pas de réponses.
C'est vrai,
je suis d'accord
avec moi-même.
Alors ça me paraît très angoissant.
C'est vrai, mais pendant que tu écris, l'angoisse disparaît. Cette lutte contre les paroles, ce combat contre les paroles, c'est la recherche d'un sens, tout ça fait fuir l'angoisse Mais après, évidemment, retourne. Et c'est pourquoi tu dois encore écrire une autre fois, etc., etc., etc. Ça, ce qui fait marcher, ce qui me fait marcher, qui me fait...
Votre moteur.
Ouais.
Miguel Aguirre.
Qué idiota. No sabía cómo íbamos a reconocernos.
Tú eres famosa, escribiste un libro.
Yo lo leí.
¿Fuiste tú?
El típico libro de final de adolescencia. Recuerdo que las escenas de sexo eran muy gráficas y abundantes. Pero me gustó, me gustó. ¿No has vuelto a publicar nada? ¿El tinto de la casa?
Muy bien.
Un extrait de l'adaptation au cinéma, Javier Cercas, de votre livre Les soldats de Salamine par David Trueba. Vous dites que le succès de ce livre a failli vous écraser.
Bon, ça a été difficile pour moi, gérer ça, parce que j'étais un écrivain complètement inconnu. Et le succès, c'est une chose formidable, parce que tu as de l'acteur. Je n'avais pas de l'acteur. À ce moment-là, j'avais seulement ma mère et quelques-unes de mes sœurs qui lisaient mes livres. Mais à ce moment-là, boum, tout a changé. Et alors, c'est formidable, c'est très beau, mais en même temps, peut te détruire. Et c'est pour ça, pour survivre à ça, que j'écris « À la vitesse de la lumière », c'est le livre que j'écris après. Et c'est un livre plein d'angoisse et de sang et de... Et un livre très triste. Mais oui, c'est le succès, c'est compliqué à gérer. Et à tuer beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes. Beaucoup... Mais finalement, je suis ici. Alors, j'ai survécu à ça.
Vous dites avoir écrit vos romans pour vous renouveler, vous réinventer. Est-ce que vous arrivez à vous surprendre? C'est difficile de se surprendre.
Oui, mais il n'y a pas écriture sans surprise. Et il n'y a pas surtout écriture sans risque. Tu dois prendre tous les risques comme écrivain. Je ne suis pas particulièrement courageuse. Mais un écrivain sans courage ne peut pas être un écrivain. Parce que tu dois courir tous les risques pour trouver une autre chose. Pour aller jusqu'à la fin, comme on disait Baudelaire, au bout de l'inconnu, pour y trouver du nouveau. Voilà. Non, c'est ça. L'écriture, c'est ça. Alors, tu peux te surprendre. Oui, tu peux trouver dans toi-même des écrivains que tu ne connaissais pas. Comme tu peux trouver dans toi-même des personnes que tu ne connaissais pas. Nous ne sommes pas seulement une personne, nous sommes beaucoup.
Vous êtes beaucoup?
Ah oui, et vous aussi?
Oui,
et tout le monde
oui,
qui nous écoute.
Sais, oui, j'ai pas assez de place chez moi.
Non, oui, oui, oui. Montaigne disait, il y a autant de différences entre nous et nous-mêmes qu'entre nous et l'autrui. Et c'est comme ça. Et l'idée de l'identité une, c'est fausse. Nous sommes une multitude.
Est-ce que toutes les sagesses ne reviennent pas à essayer de trouver cette unité qui peut-être n'existe pas?
Oui, peut-être il y a un combat pour trouver qui tu es, mais à la fin, qui tu es, peut-être c'est l'addition de toute cette personnalité que tu as pendant ta vie, non? Mais peut-être tu le trouves à la fin. Mais penser que tu es seulement une personne, que je suis la même personne que j'avais quand j'avais 20 ans, c'est ridicule, c'est complètement faux.
Comment ça se fait que vous êtes capable de dire dans vos romans, je vous cite, au monde entier d'aller se faire foutre, mais pas dans vos articles?
Parce qu'un romancier, c'est un romancier. Et le roman, c'est le lieu de la liberté totale. Mais en même temps, je suis un citoyen, normal. Et j'ai une responsabilité, comme chaque citoyen. L'idée que le romancier, c'est un être semi-divin qui habite la tour d'Ivoire, c'est complètement ridicule. C'est un désastre, c'est un mensonge. Le romancier, les poètes, l'écrivain, les artistes sont des gens normaux qui font des choses, les meilleurs font des choses exceptionnelles, mais je ne sais pas, Cervantes c'était une personne normale.
Ah oui?
Mais bien sûr!
Vous êtes
même
sûr?
Soldat, pauvre, sans fortune, rien, qui a fait des choses exceptionnelles.
Mais alors, Dali, tout à l'heure, vous avez cité Dali pour parler de normalité, c'était pas l'exemple le plus attendu.
Il était un homme normal.
Vous pensez?
Ah oui, super normal.
Et sa moustache?
Et sa moustache, c'était une forme d'attirer l'attention sur lui-même. C'est tout, comme sa personnalité, etc. Non, j'insiste. Comme écrivain, je dis les choses plus subversives que je peux, les choses plus disruptives, tout, mais révolutionnaire, si tu veux, si je pourrais le faire. Mais comme citoyen, je suis un citoyen normal. Vous savez, j'ai une responsabilité que cette société marche, et dans la démocratie et tout ça, non? Alors, il y a deux personnes dans le romancier et le citoyen. Et ils doivent habiter ensemble. Et ce n'est pas facile toujours. Hein?
Vous dites que les écrivains sont comme des charognards et que ce qui est douloureux dans la vie est bon pour la littérature. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réjouir d'une chose douloureuse en pensant à l'écrire plus tard ?
Si, je me réjouis constamment. Je me réjouis constamment de ça.
De la douleur ?
Quand je pense que je peux faire quelque chose avec ça, oui. Mais ça, je suis d'accord avec moi-même.
Dans le sens souvent d'accord avec vous-même.
Oui, je suis d'accord. Pas toujours, mais dans
si
ces cas...
Mais si vous êtes nombreux, en même temps, ça ne veut rien dire.
Bon, ça, aussi, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec moi-même. Demain, je ne sais pas. Mais oui, c'est-à-dire, la vie heureuse n'est pas bonne pour un écrivain. Dans un monde heureux, il n'y aurait pas littérature. Au moins, roman. La poésie peut être très mauvaise, mais roman, impossible. Notre carburant, c'est la douleur, c'est la violence, c'est l'horreur, c'est ça. Alors, nous sommes comme, effectivement, des animaux charognards. Les meilleurs de nous sont comme les alchimistes, ces fous qui voulaient transformer le fer en or. Le meilleur, Cervantes, Dante, même, Voltaire, les grands écrivains, là, non, transformaient la douleur, la violence et tout ça en sens et en beauté. Et c'est pourquoi je crois... Je suis très demandé. Et je crois que la littérature, c'est extrêmement utile, contrairement à ce que pense mon temps. Extrêmement utile. Si elle ne veut pas être utile. Si elle veut être utile, alors devient propagande ou pédagogie et arrête d'être utile. Mais si elle ne veut pas ça, si elle veut comprendre tout, alors elle devient très utile.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Melville. La fumata è bianca.
Dear brothers and sisters, Habemus Papam, Ac Reverendissimum.
Extrait du film Habemus Papam de Nanni Moretti que vous citez, Javier Cercas, dans votre ouvrage Le fou de Dieu au bout du monde. Le film met en scène un pape qui ne veut pas l'être, incarné par Michel Piccoli. Et vous citez dans votre livre Platon. Là, vous, justement, ça rejoint ce que vous disiez juste avant le disque. Platon considère que la qualité la plus importante d'un leader est de ne pas vouloir en être un. Vous vous demandez si on peut appliquer ça au pape François. Et moi, je vous pose la question pour un écrivain.
Peut-être. Un écrivain, ce qu'il doit vouloir, c'est être un grand écrivain, écrire les meilleurs livres possibles, mais pas être prix Nobel. Mais vouloir écrire une phrase, une parole, un livre extraordinaire, ça, oui. Mais vouloir être fameux, vouloir être, je ne sais pas, voilà, prix Nobel, ça c'est ridicule, ça c'est pour les mauvais écrivains. Les grands écrivains, ce qu'ils veulent, c'est écrire très bien, c'est écrire un livre extraordinaire qui change la vie du lecteur. Voilà, et change le monde, finalement.
Tout simplement.
Ça, c'est que...
Alors, on va parler de foi et on va parler d'écriture ce soir, évidemment. Et la foi, vous l'avez perdue à 14 ans.
Oui.
Suite à un chagrin d'amour, vous vouliez lire un livre absolument tragique. Pour ne pas vous suicider, vous êtes tombé, hélas, sur l'histoire d'un prêtre qui perd la foi.
Oui.
C'est ce livre qui vous a fait perdre la foi ?
C'est ce livre, c'est les circonstances, c'est tous les livres d'un grand écrivain espagnol qui s'appelle Miguel de Unamuno. C'est un grand écrivain, j'ai lu tout
Bueno
quand
Martyr.
J'avais 14 ans, après j'ai commencé à lire Nietzsche. Le livre, c'est une anecdote, c'est Manuel Bueno Martyr, effectivement, sur un prêtre qui perd la foi, etc. Mais a été une réaction contre des choses, non, contre mon enfance, contre mon adolescence très catholique, contre ma famille qui était très catholique, contre mon pays qui était très catholique, contre les franquismes qui étaient en régime catholique, etc. etc. Mais oui, ce livre a déclenché dans moi-même cette réaction qui m'a porté au l'athéisme, non, finalement.
Et vous avez lu Nietzsche ensuite, vous avez lu Bertrand Russell, qui sont à peu près d'accord sur les choses qui nous intéressent. Si on peut perdre la foi avec des livres, on peut aussi retrouver la foi avec des livres.
Je ne sais pas. On parle de ça dans ce livre. Flannery O'Connor, la grande écrivaine américaine, dit « Avoir foi, c'est plus difficile que ne pas l'avoir. » Je suis d'accord avec elle. Bon, ça c'est un livre comique. Ça, c'est un livre drôle, etc. Et bon. Mais il parle de choses très, très sérieuses en même temps. Non, parce que le sens de l'humour est la chose plus sérieuse du monde, selon moi. Mais on parle de la foi, oui, effectivement. Il y a un moment, par exemple, où je parle avec un personnage extraordinaire qui s'appelle Tolentino, c'est le ministre de la Culture, disons, le préfet du Vatican. Je lui dis que c'est un poète, c'est un grand poète portugais. Mes amis disent que c'est le meilleur poète portugais. Et je lui dis, cardinal, la foi, c'est comme une intuition poétique, c'est-à-dire la perception d'un sens là où nous ne voyons pas un sens. Et il me dit, oui, exactement ça. Mais après, je parle avec le pape François, et je lui dis, vous savez, on a parlé de ça avec le cardinal Tolentino, il me dit, non, c'est pas une intuition poétique, c'est un don. Et je ne sais pas si les deux choses, l'intuition poétique et les dons, sont contradictoires. Je crois qu'elles sont complémentaires. Sinon, peut-être sont la même chose. En tout cas, ce ne sont pas volontaires. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, ok, je dois écrire un poème, j'aurai une intuition poétique. Non. Tu as l'intuition poétique ou tu n'as pas l'intuition poétique. Avec la foi, c'est la même chose. Je dois t'avouer, je ne sais pas ton cas, mais parfois j'ai senti la jalousie des gens qui ont une vraie foi, comme ma mère, par exemple, une vraie catholique, une vraie croyante, comme les missionnaires de ce livre, qui sont vraies croyantes. La foi te donne une force, une tranquillité, une sérénité, etc., que j'ai parfois eu jalousie de ça. Mais même si je voudrais récupérer la foi, je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas volontaire. C'est une chose que tu as et tu n'as pas.
Mais vous trouvez incroyablement mesquin le pari pascalien.
Ah oui. Parce que c'est formidable. Pascal, c'était très intelligent, mais...
C'est un bon calcul.
Mais c'est horrible, non? Oui, c'est-à-dire, si tu as foi, tu gagnes sûr. C'est win-win. Si tu as la foi, tu gagnes tout. Si tu n'as pas la foi, tu perds tout. Bon. Ça, c'est incroyable, non? C'est pur intérêt. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Les gens qui ont foi, vraiment.
Vous pensez, parce que j'ai l'impression, en ayant lu votre livre, que finalement, la conclusion, une des conclusions, c'est que la foi, c'est le doute.
Je ne suis pas sûr de ça. Je sais que les gens qui ont foi doutent, mais je n'ai pas foi et je ne doute pas. C'est-à-dire, je ne peux pas croire à la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Ça, c'était la question que vous vouliez poser au pape.
Mais parce que c'est le centre, condition. Et parce que ma mère, une vraie catholique, voulait savoir si elle verrait mon père après la mort.
Donc c'est le leitmotiv du livre.
Absolument, le leitmotiv, le centre, le fil rouge, tout du livre. Et en même temps, c'est le centre du catholicisme, c'est le centre du christianisme. Et je ne suis capable de croire à ça. C'est une folie absolue, mais c'est le centre du christianisme, alors.
Oui, mais la question de la vie après la mort, c'est le centre du christianisme, comme vous le soulevez, Javier Cercas, mais on le retrouve aussi chez Platon, c'est pas une idée neuve propre au christianisme,
oui.
Et c'est une question finalement que tout le monde se pose.
Bravo, exactement, c'est fondamental. Ce qui fait, effectivement, dans Socrate, dans Platon, est là, mais c'est différent. Ce qui fait le christianisme, c'est une reformulation de ça, très forte, très puissante. La preuve, c'est qu'il y a 2000 ans, plus de 2000 ans de christianisme, de catholicisme, etc. Non? Et oui, c'est la même idée, mais c'est différente. Comme quand Saint Paul va prêcher la foi de Christ, il ne comprend pas ça. Il comprend la résurrection de la chair. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un scandale. C'est un scandale.
Ça revient souvent chez vous, le mot scandale. Vous trouvez souvent que les choses sont scandaleuses.
Mais ça, c'est un scandale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que nous ne mourrons pas? C'est une chose très...
On meurt et puis on revient.
Non, mais comment faire, ça? Je ne crois pas, ça.
Moi, je ne veux pas revenir. Vous voulez revenir?
Je voudrais ne pas mourir. Parce que ça, c'est une insurrection contre la mort. C'est-à-dire, Christ, c'est un homme... C'est pas un révolutionnaire, c'est un révolutionnaire total. Il a dit, je ne mors pas. Et vous... Si vous allez avec moi, ne mourrez pas. C'est-à-dire, la mort n'existerait pas. C'est une insurrection contre la mort, c'est une folie absolue. Mais ça, c'est les centres du christianisme.
Mais vous allez même plus loin, puisque vous dites même que dire que la vie ici-bas est subalterne à la vie d'après, c'est quelque chose contre la vie terrestre.
Ça, c'est Nietzsche qui dit ça. C'était convaincant pour moi, quand j'étais jeune. Effectivement, ce qu'il dit, c'est que le christianisme, c'est une dévaluation de notre vie, parce qu'il dit, ok, cette vie... C'est pas l'importante. La vie plus importante, c'est la vie de l'autre vie, non? Après la mort. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr de ça. C'est-à-dire, ce qu'il dit Christ, c'est pas exactement ça. Ce qu'il dit, c'est si vous me suivez, je ne sais pas comment dire ça en français, mais si vous me suivez, vous aurez 100 fois plus ici et après l'éternité. C'est-à-dire, l'éternité commence ici. La vie éternelle commence ici. Ça, c'est ce que Christ dit. Mais il dit que la mort, que nous n'acceptons pas la mort. Le vrai chrétien, comme ma mère. Ma mère, quand elle disait « Après la mort, je verrai ton père », elle n'acceptait la mort. Elle disait que son amour pour mon père était plus fort que la mort. Là, il y a une insurrection que nous je ne comprends pas. Et que nous ne comprenons. Mais c'est le centre du christianisme. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ce n'était pas même le pape François, c'était Saint Paul qui a inventé le christianisme. Il dit « Nous ressusciterons parce que Christ a ressuscité. Et si Christ n'a pas ressuscité, vaine est la notre foi. » C'est-à-dire, c'est inutile la notre foi. C'est ça le centre du christianisme. Et il y a là cette insurrection totale contre la mort. C'est-à-dire, c'est pas exactement ce que disait Nietzsche. C'est nous voulons plus encore vivre. Nous voulons plus vie. Non? Et ça, c'est difficile à imaginer, à accepter, à gérer. C'est un scandale, je suis d'accord.
Et vous avez aussi trouvé que c'était un scandale que le Vatican vous propose ce rôle. C'était la première fois que le Vatican ouvrait ses portes à un écrivain. Vous ne savez pas pourquoi, puisque vous êtes iconoclaste, athée, anticlérical. Vous avez cru que c'était une blague. Vous leur avez dit, vous savez que je suis un homme dangereux.
Mais oui, bien sûr.
Vous avez eu une liberté totale, puisque ça, ils vous l'avaient assuré. Ils ont tenu parole.
Mais absolument. Ils n'ont pas lu une seule ligne avant de publier le livre, une seule parole avant de publier le livre. Pardon, non, j'ai donné les manuscrits à une personne pour faire de fact-checking. Mais ils ont, quand le livre est publié, personne n'avait lu au Vatican le livre. Et oui, c'est une folie. Je dis à la personne qui est venue à moi, à me trouver l'année 23, pour me dire qu'il m'invitait à accompagner le pape, il m'ouvrait les portes du Vatican, etc. Il m'a dit, c'est la première fois que le Vatican fait ça, c'est pour ça que nous pensons que vous serez intéressé. La première chose que je lui ai dit, c'était... Mais vous savez que je suis un homme dangereux. Il dit que je dis en fait, est-ce que vous êtes fou? Et ma réaction était logique, parce qu'un écrivain doit être dangereux toujours. Il doit dire des choses. La vérité, bon, pour revenir à l'évangile, la vérité vous fera libre. Et ça, c'est dangereux toujours. La vérité, c'est toujours dangereux. Tu es journaliste, tu le sais très bien. La vérité est révolutionnaire toujours. Et si vous m'ouvrez les portes du Vatican, je raconterai la vérité. Et vous savez, c'est ce lieu secret, plein de mystères et plein de légendes, etc. Je raconterai la vérité. Je lui disais, vous prenez un risque. Ils ont pris ce risque, alors j'écris ce livre. C'est tout.
Il y a trois personnages principaux dedans. Le pape François, votre mère et vous qui racontez le livre. Sur les trois personnages principaux, il y en a deux qui sont morts, qui n'ont pas pu le lire, votre oui. mère. Et le pape François qui est mort en avril dernier, le mois de parution du livre en Italie.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous
en
a
Espagne
fait
En Espagne aussi.
Qu'est-ce que ça vous a fait?
Bon, on a dit que c'était une opération de marketing organisée par la...
Une fausse mort?
Oui. Pour la,
par
la... Non, faute, non. La vérité, il était mort. Mais... Et on a dit aussi qu'il a lu le livre et il est mort. Bah, la lecture du livre ne lui a fait... Non. Qu'est-ce que... Non, il était malade. Il était un homme vieux. C'est normal.
Oui, mais qu'est-ce que ça vous a fait que les deux personnages principaux de ce livre ne puissent le lire?
C'est un livre très étrange. Ça n'existe pas un livre comme ça. Jamais l'Église catholique a ouvert les portes à un écrivain. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Je peux imaginer, etc. Mais avec ces livres, ce sont passées des choses très étranges que je raconte dans le livre. Si j'ai été croyant, je penserais que la fin du livre, c'est un petit miracle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi... Alors, ce sont passées des choses très étranges, oui. Mais je ne peux pas raconter beaucoup de choses parce que je les raconte dans le livre. Qu'est-ce que j'ai pensé? Bon, je n'étais pas intéressé à que le pape lit les livres. Le pape, c'est le protagoniste. Bon, ce n'est pas le protagoniste, en fait. Le protagoniste, c'est l'Église. C'est une chose très étrange. Une des choses plus étranges du monde. C'est-à-dire, tous les empires ont crôlé. Mais l'Église est là. C'est la seule institution qui a duré plus de 2000 ans. C'est très étrange. Aussi, si je serais croyant, je croirais que c'est un petit miracle aussi. Un gros miracle, en fait.
Ça, on peut dire un grand miracle. Oui. Vous écrivez, comme tout un chacun, j'ai toujours imaginé que la curie du Vatican est essentiellement composée de prêtres impies qui descendent dans de vieilles catacombes illuminées par des torches pour s'adonner à des messes noires, des rituels sataniques et des orgies avec des valkyries nazies agrémentées de sacrifices de boucs et de nouveau-nés.
Oui.
Est-ce que votre regard et votre rapport au sacré ont évolué avec l'écriture de ce livre?
Bon, ok, absolument. Ma vision du monde a changé complètement. Si un livre ne vous change la vision du monde, et vous-même, ce ne peut pas être un bon livre.
Qu'est-ce que ça a changé alors? Vous êtes toujours athée.
Oui, bon, à cette question de réponse. La première réponse, c'est celle que m'a dit un homme qui m'accompagne toujours, que c'est mon ami aujourd'hui, qui s'appelle Lorenzo Fazzini, qui a été en charge de venir à me proposer ce livre.
Celui qui mange beaucoup.
Et bravo, c'est une sorte de mélange entre Don Quichotte et Sancho Panza, parce qu'il est très haut et en même temps, il mange énormément. Et c'est très drôle, c'est un personnage très drôle, vraiment. C'est le directeur de la maison d'édition du Vatican qui m'a dit tout le temps, Javier, si tout devient une autre fois, si tu te convertes au catholicisme, ne le dis pas, parce que tu ne vendras pas une seule copie du livre. Mais après 4 ans, quand tu as vendu beaucoup de livres, alors oui, alors tu peux raconter ta conversion dans un livre qui vend très bien, tu me donnes à moi le livre, je le publie, on vend 4 millions d'exemplaires. Et non, je restais athée, parce que je te disais, je ne sais pas comment faire pour retourner à la foi. Mais ce livre m'a changé complètement ma vision du monde et aussi de l'Église. Et c'est une blague, cette que tu as lue, mais c'est la vision. Tu sais, la chose plus difficile de ce livre a été me nettoyer le regard.
Oui, de tous les préjugés que vous aviez.
Absolument.
Sur l'Église.
Parce que
mais comment est-ce qu'on fait pour se nettoyer le regard, puisque vous dites que c'est ce que doivent faire tous les écrivains?
Je crois ça, exactement.
Comment on fait?
Je ne sais pas. Tu dois t'entraîner à le faire, parce que je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Et surtout, c'est parce que la littérature, ce qu'elle fait, c'est nous montrer la réalité comme si elle était complètement nouvelle. Avec tous ses profils, avec toutes sa merveille, son horreur. Et sans ça, c'est impossible. Sans ça, c'est impossible la connaissance, sans finir avec tous tes préjugés. Et avec ces livres, a été encore plus difficile. Parce que, bon, j'ai parlé des sujets dans mes livres sur lesquels il y a énormément de préjugés, la guerre civile espagnole, etc. Mais dans ces cas, c'était encore plus difficile, parce que tout le monde a, surtout dans nos pays de tradition catholique, tout le monde a de préjugés sur l'Église. Contre, en faveur, moitié, mais plein de préjugés. Tout le monde croit savoir tout sur l'Église, non ? Parce qu'on a été à l'école, parce qu'on a lu je ne sais pas quoi. Et pour moi, ça a été très difficile. Aller là, j'avais énormément de préjugés. J'étais complètement contre l'Église anticléricale, etc. Non, je suis anticlérical encore, d'une façon différente, mais complètement contre. Alors, aller là, avoir effectivement qu'est-ce que l'Église dit aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est le christianisme aujourd'hui, au corps du christianisme, au Vatican ? Savoir les gens qui sont en charge de cette institution vraiment étrange, qui était cet homme qui était en charge, le pape François, etc., etc., ça a été une expérience extraordinaire. Et si tu fais cet exercice, tout devient extraordinaire. Tout devient, je dis, ce livre, c'est un voyage à Mongolie, que c'est un pays très exotique, mais surtout c'est un voyage au Vatican, que c'est encore plus exotique. Tout devient étrange, du commencement à la fin.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Et adesso vorrei dare la benedizione.
Maintenant, je souhaiterais donner ma bénédiction, mais je vais vous demander un service avant ça, avant que l'évêque bénisse le peuple. Je vous demande de prier le Seigneur pour qu'il me bénisse. Que Dieu bénisse son évêque.
Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me.
En silence. Priez pour moi en silence.
On entend le premier discours du pape François au Vatican le 13 mars 2013, qui finit par « prier pour moi », ce qui a marqué beaucoup d'auditeurs et vous-même, Javier Cercas. Vous qualifiez François de pape anticlérical,
oui.
Comme vous, Jorge Mario Bergoglio, je dis son vrai nom quand même au moins une fois, et on apprend sous votre plume qu'il a été portier dans des clubs de tango et diplômé en chimie. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur quelque chose qui vous lie tous les deux, c'est l'humour, et sur la façon de dire drôle en espagnol.
Ah oui. Écoute, une des phrases avec lesquelles j'ai arrivé au Vatican, qui était dans ma tête... Mes livres fonctionnent un peu comme la musique. La bande sonore de ces livres, c'est, c'est le Rolling Stones.
Le rock, et vous dites Bach, le premier rocker.
Bravo, exactement. Je dis parce que c'est la vérité. Oui, parce que mes livres fonctionnent un peu comme le rock and roll, comme Bach. C'est-à-dire, il y a des leitmotifs qui changent, qui se répètent, etc. Un des leitmotifs, c'était un des idées que j'avais avant d'arriver au Vatican. C'est une phrase de Siron, l'écrivain français d'origine
roumaine,
qui disait « Toute religion, c'est une croisade contre le sens de l'humour. » Et alors, pour moi, c'était vrai, ça. C'est-à-dire, et pour moi, c'est une catastrophe, ça. Comme j'ai dit, le sens de l'humour, c'est la chose plus sérieuse du monde. L'ironie, c'est l'instrument essentiel du roman. Il n'y a pas roman sans ironie. Et alors, pour moi, où il n'y a pas le sens de l'humour, je fini, non ? Je crois que c'est une des choses qui m'a écarté du christianisme. Je me souviens, et ce n'est pas une chose que nous, on associe au christianisme, au catholicisme, le sens de l'humour et l'ironie, etc. Non, Nietzsche disait « votre face » aux chrétiens. Il dit « votre face de tétrique, de catastrophe, sérieuse, etc. sont la principale accusation contre vous. » Non ? Et c'est formidable, ça. Alors, pour moi, c'était très important. Et ce que je me trouvais là, au Vatican, c'est un pape qui, effectivement, fait une revendication radicale du sens de l'humour.
Et de l'ironie.
Et de l'ironie. Il y a une phrase, je crois que j'ai lu tout, de ce qu'il a écrit, et ce qu'on a écrit sur lui, sur le pape François. Mais la phrase plus belle que je crois qu'il a dit, c'est une phrase qu'il n'a pas écrite, qu'il a dit à un ami, un personnage de ses livres, qui s'appelle Lucio Brunelli, qui c'est son ami, très ami, à Rome, c'est un vaticaniste, etc., un homme vieux, qui un jour, quand j'étais en train de parler avec lui, il m'a dit, vous savez, une fois, François m'a dit, la chose plus proche à la grâce divine, c'est le sens de l'humour. Waouh ! J'ai pensé, ça, c'est formidable, parce que c'est extraordinaire. Pour nous aussi, les laïcs, le non-croyant, quand il rit, tu comprends. Et ça c'est le la grâce divine. Non ?
Comment est-ce qu'on dit drôle en espagnol ?
Et ça, c'est formidable, parce qu'il parlait en italien, mais en espagnol, une personne avec laquelle tu ris, ou une chose qui te fait rire, c'est une chose graciosa, qui a la grâce. Non ? Et sans doute, le pape François pensait à ça. Et c'est formidable, cette revendication radicale. C'est pourquoi il aimait, une des choses par laquelle il aimait Jean XXIII. Il voulait s'appeler Jean XXIV. Jean XXIII, une fois, on l'a demandé combien de personnes travaillent au Vatican. Et le pape a répondu plus ou moins la moitié. Ça, c'est une réponse de François. Et alors, oui, ça a été une des grandes surprises que j'ai trouvées là. Vraiment.
Dans votre livre absolument passionnant, Javier Cercas, on apprend plein de choses. On apprend notamment qu'il y a de très bonnes revues au Vatican, comme la publication jésuite Civiltà Cattolica, que les relevés bancaires au Vatican sont en latin. Et la question que je me pose en lisant tous les entretiens absolument captivants que vous avez eus avec tant de personnalités du Vatican, où vous avez parlé de métaphysique, du sens de la vie, de poésie, où tous ces gens semblaient érudits, lettrés, intelligents, n'avez-vous pas une mélancolie maintenant que vous êtes revenu parmi nous et qu'on parle de choses superficielles ?
Mais on n'est pas parlé, on parle de choses très intéressantes.
Oui, parce que moi je viens du Vatican, mais...
Non ! L'idée que le Vatican, une institution qui a 2000 ans, est gouvernée par des gens stupides, c'est ridicule. C'est pas vrai. Les gens qui sont là sont normaux. J'ai trouvé des gens très normaux, très progressistes, je dois dire. Il faut le dire.
Ah oui,
parce que c'est la vérité. Parce qu'on n'attend pas ça. C'est-à-dire, le préfet de la communication qui a eu l'idée que j'écris ce livre, c'était l'ennemi numéro un de Silvio Berlusconi, okay, qui l'a caché de la télévision. Alors, sont des gens très normaux, mais en même temps, sont des gens très intelligents, il faut le dire. Je parle de littérature avec eux, je parle de théologie. On a dit que ce livre, c'était un traité de théologie fait par un athée. En partie, c'est comme ça. Bon, mon maître Borges était un spécialiste de ça. Non ? Alors, oui, mais sont des gens intéressants. Oui, quelqu'un, ils sont devenus des amis, je dois le dire. Oui.
Celui avec lequel vous parlez du poète portugais surréaliste ?
C'était Tolentino.
Oui.
Oui.
Lui, il est devenu un ami ?
Non.
Ah,
je n'ai pas une relation avec lui. Peut-être. Non, lui, non. Non, c'est un personnage qui est devenu très proche pour moi. vraiment. On s'est compris très bien. Au contraire, on est devenu ami d'un personnage qui au commencement, il est à la défensive avec moi. Il est comme, c'est le Spadaro, c'est l'intellectuel plus proche au François, mais que je crois qu'il était, il pensait que j'étais en danger pour François.
Celui qui vous dit que la foi ne s'oppose pas à la raison.
Bravo, exactement, exactement.
Votre choix musical pour ce soir, c'est Sympathy for the Devil des Rolling Stones, que vous mettez aussi dans votre livre Le fou de Dieu au bout du monde. C'est à nouveau une façon de faire une petite blague ironique, j'imagine.
Non, parce
Sympathie
que c'est...
pour le diable.
Non, parce que c'est une chanson religieuse. Sans Dieu, il n'y a pas le diable. Ça pour commencer. Et après, parce que je suis le diable qui entre dans les Vatican.
Vous pensez que vous êtes le diable, vraiment ?
Bon, je me présente comme le diable, comme Mick Jagger fait. Il se présente, non ? Et alors, mais on peut discuter sur ça. Si je le suis, je ne suis pas. Mais c'est une chanson religieuse. Et à la fin, il y a une autre chanson religieuse de Rolling Stones.
Et alors, de Lady Gaga.
Et bravo, il y a... Bravo. Cette version avec Lady Gaga, c'est formidable.
On se demande s'il est possible d'être un grand artiste sans une dose d'isolement. Je veux dire, que se serait-il passé, par exemple, si Michel-Ange, en peignant la chapelle Sixtine, avait dû emmener ses enfants à leur cours de natation, à leur match de football, etc. Eh bien, il n'aurait jamais terminé la chapelle Sixtine. Lorsqu'une œuvre vous absorbe autant, elle vous éloigne des autres. Souvent, il ne s'agit pas de parents malveillants, mais simplement de personnes qui vivent dans un monde parallèle.
Juan Villoro, au sujet de son livre La figura del mundo, en août dernier, traduit par notre cher Franck Olivard. Javier Cercas, c'est le livre que vous avez choisi de faire découvrir aux auditeurs, le livre du journaliste et écrivain mexicain Juan Villoro, publié en 2024.
Oui, j'espère qu'il sera traduit en français.
Nous espérons aussi.
Oui, c'est un livre... Bon, Romulo, d'abord, c'est mon ami, mais c'est un grand écrivain. Je crois qu'il y a certains de ses livres qui sont traduits en français. Et c'est assez un livre magnifique, parce que c'est son, disons, mémoire sur son père, qui était un philosophe mexicain très bon, qui était un peu l'idéologue de le zapatiste, zapatistas mexicain, qui était très proche des zapatistas mexicains, le commandante Marcos, etc. Et bon, le livre, c'est excellent, je dois dire. C'est une réflexion sur son père, mais aussi sur la gauche, sur la culture, sur beaucoup de choses. Sur être fils, non ? Excellent livre.
Tout à l'heure, vous avez cité Borges et vous dites que l'un des meilleurs livres du XXIe siècle, il s'intitule justement Borges, il n'a pas encore été traduit en français, mais écrit par votre ami, l'écrivain argentin Adolfo Bioy Casares, qui a aussi écrit à quatre mains avec Borges.
Oui, je voudrais que Adolfo Casares aurait été mon ami. Non, il était son ami.
J'ai cru que c'était aussi votre ami.
Oh, j'aurais aimé, parce que c'est un autre grand écrivain.
Oui, L'invention de Morel.
Bravo, et d'autres livres, oui, oui. Et c'est un livre, c'est aussi un petit miracle. Ce sont plus de 1000 pages en espagnol, et ce sont les conversations entre les deux hommes. Et, bon, pour moi, Borges, c'est mon maître, mais pour moi, c'est l'écrivain le plus important de la littérature en espagnol depuis Cervantes, ou Quevedo. C'est un immense écrivain.
Et vous étiez ami, en revanche, avec Bolaño.
Ah oui, si. Ça c'est vrai.
Vous pouvez nous raconter un souvenir que vous avez de lui ?
Bon, j'ai beaucoup de souvenirs.
Un seul.
Je ne sais pas.
Ou une chose que vous aimeriez qu'on sache à son sujet ?
C'est difficile, parce que quand j'étais son ami, il était un écrivain très peu connu. J'étais encore moins connu de lui. Je me souviens d'une chose très, 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 très drôle. On parlait constamment, pratiquement chaque jour, par téléphone. Et un jour, je me souviens qu'il y avait une anthologie d'écrivains espagnols, de jeunes écrivains espagnols, s'appelait Les Pages Jeunes. C'est-à-dire, en français, c'est la même chose, non ? Les Pages Jeunes, c'est
les pages
où
jeunes.
Tout le monde était, non ? C'était l'annuaire, etc. Et je n'étais pas là. Et Bolaño m'appelait, me disait, « Mais Javier, tu as beaucoup d'ennemis. Tu as beaucoup d'ennemis parce qu'on t'a supprimé de cette anthologie. » Et je lui disais, mais non, Roberto, personne ne me connaît. C'est tout simplement comme ça. Parce qu'avant de Soldat de Salamine, seulement ma mère et quelques-unes de mes sœurs lisaient mes livres. J'étais très, très heureux, mais c'était comme ça. Alors, il avait cette vision bellique, non, de la littérature.
Belliqueuse,
et bellique aussi, parce que tu as des ennemis, tu as des amis, il faut lutter, il faut... Non. Et alors, il a pensé ça, que j'avais beaucoup d'ennemis, mais non, c'était la vérité, c'était que je n'avais pas un seul ennemi. J'ai eu des ennemis quand je...
Quand vous avez réussi.
Oui, exactement.
Est-ce mais qu'il était avant. Aussi drôle dans la vie que dans ses écrits ?
Oui.
Gracioso.
Oui, gracioso, il avait le sens de l'humour, ça se voit dans ses livres. Il n'y a pas un grand écrivain, un grand romancier, et il était un grand romancier, qui n'a pas ça.
C'est vrai, c'est Shakespeare, impossible. Melville, Molière...
Oui, surtout
Dickens.
le roman.
Swift.
Je peux imaginer, il y a des grands poètes qui n'ont pas, dans ces poèmes. La poésie, c'est possible sans le sens de l'humour. Mais le roman, c'est impossible. Le roman, c'est le genre de l'ironie et aussi de... C'est ça qui nous dit Cervantes, qui a créé le genre, non ? Comme un genre comique. Que le sens de l'humour, c'est la chose plus sérieuse du monde. Voilà, mais on ne comprend pas ça. C'est incroyable. On a pris par cette leçon que c'est très importante. Et que les gens qui sont sérieux sont normalement vraiment dangereux dans le mauvais sens de la parole.
Merci beaucoup, Javier Cercas.
Non, merci à vous.
Le fou de Dieu au bout du monde vient de paraître chez Actes Sud dans une traduction d'Alexandar Grujicic et de Karine Louédon. Le texte fait partie des 10 coups de cœur de la rentrée littéraire de France Inter. Vous serez aux correspondances de Manosque le 27 septembre prochain. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy, Alexandra Conet et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Arnaud Caillet.